CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.
Allez, vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité avec, comme annoncé, Monsieur Raymond Laurière. Monsieur Raymond Laurière, bonjour.
Bonjour.
Président de la Société archéologique de Villefranche de Rouergue. Alors moi, j'y suis déjà, là, je suis Indiana Jones. Hein, on est un peu loin de ça dans la réalité.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'en aparté, on parlait d'archéologie. Le côté, on est tous animés par le fait de trouver quelque chose sous terre, que ce soit un trésor ou autre chose. D'ailleurs, faudra nous dire où sont cachés les trésors à Villefranche-de-Rouergue. En tout cas, c'est ce qui éveille très rapidement l'archéologie. Je pense que dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose du domaine de l'aventure, de la fouille. Et puis, ça nous ramène aussi peut-être un peu en enfance. On avait les mains dans la terre et dans l'attente de trouver un vrai trésor. Président de la Société archéologique de Villefranche-de-Rouergue, qui existe depuis plus de 30 ans ici à Villefranche. Vous en êtes le président. Dans l'actualité, c'est le bulletin de la Société archéologique de Villefranche. On en parlera un petit peu plus tard. On va peut-être commencer par l'organisation de votre association. Qui fait quoi? Vous en êtes le président, mais j'imagine que vous êtes entouré. Est-ce que vous êtes tous archéologues? Est-ce que vous êtes juste passionnés? Qui fait quoi?
Voilà, mais nous, en fait, on est une association de bénévoles et dans lesquels on n'a pas de diplôme d'archéologue. Hein, voilà, tous ceux qui font partie de la société sont des bénévoles intéressés par tout le passé, par toute l'histoire, par tout ce qu'on contient le mot archéologie. Mmh. Voilà, mais aucun de nous n'a vraiment un diplôme d'archéologue. Moi, j'ai un diplôme d'historien de l'art. Voilà, bon, l'histoire de l'art, elle aussi recoupe l'archéologie et l'histoire et permet d'envisager un petit peu tout ce que l'homme a créé, tout ce que l'homme a fait. Donc, moi, je m'intéresse autant à un biface qu'à un tableau, qu'à une église.
Voilà, donc c'est quoi un biface, pardon, monsieur?
Alors, le biface, c'est un des premiers outils taillés par l'homme. C'est-à-dire que l'homme a ramassé un galet d'un galet de rivière et a fait éclater par percussion, et il en a fait éclater des parties latérales, et il a donc créé un tranchant. Voilà, la partie où les éclats ont été faits, c'est créé un tranchant. Le premier couteau, voilà, et c'est avec ça qu'il va permettre de couper, de racler, de gratter, d'où tous les noms donnés à tous ces outils, grattoir, racloir, biface, hache, hachereau, en fait, etc., tout ça, voilà.
Et un peu plus tard, c'était le bout d'une lance, hein, j'imagine.
Voilà, le bout d'une lance, voilà, les pointes de flèche, ouais. Voilà, et tout, évidemment, tout qui a eu de défensif, bien entendu. Donc nous, on est une société, on s'intéresse tous à ça. On est une société loi de 1901, avec donc un président, un trésorier, un secrétaire, des membres. Voilà.
L'archéologie, qui est un domaine très très encadré, ça serait peut-être bien d'en parler. On peut pas faire n'importe quoi.
Voilà, d'ailleurs, on peut pas faire n'importe quoi. Et il y a des lois. Et d'ailleurs, on vit encore toujours avec cette loi qui date de 1941. Voilà, qui interdit la fouille. Donc théoriquement, on n'a pas le droit de faire un trou par terre, dans la terre, pour trouver quelque chose. On n'a théoriquement pas le droit.
Ouais, théoriquement, pas le droit.
Pas le droit. Mmh. Ou du moins, si on le fait, il faut avoir l'aval du propriétaire. Et si on trouve quelque chose, bien sûr, le signaler en bonne et due forme.
Ouh là là, bon. Ça complique. Après.
Ouais, ça complique beaucoup. Mais bon, et actuellement, ces dernières années, la loi véritablement se resserre. Ça devient beaucoup plus encadré avec des nouvelles structures comme l'INRAP, le centre départemental de l'archéologie, là.
Ça ne laisse pas de place aux passionnés.
Bon, que la place que ça laisse aux passionnés est un petit peu difficile. Elle est mal délimitée parce que ces organisations prennent en charge justement tout le côté découvert, tout le côté fouille. Mmh. Voilà. Et nous-mêmes, on n'a pas le droit de fouiller. Et si on nous demande l'autorisation, même si l'objet de notre fouille ou de notre sondage est intéressant, eh bien, on nous oppose des raisons financières, des raisons de temps, des raisons de de X. Alors nous, on demanderait d'ailleurs pas, on demande pas forcément de fouiller nous-mêmes, nous en étant responsables de la fouille. Mmh. On demanderait, même si on doit être encadré, on ne demande pas mieux. Bon, mais là, ça pose d'autres problèmes de disponibilité des gens, de financement, voilà, et donc la situation...
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour la société archéologique de Villefranche, vous pratiquez votre activité, mais plutôt dans un bureau, alors que c'est... une activité quand même extérieure, même s'il y a des documents.
Voilà. Alors non, on a une activité extérieure. Alors si vous voulez, nous, on a notre activité principale, étant donné qu'on ne peut pas fouiller, on ne peut pas faire de trous, on ne peut pas se servir de détecteurs de métaux, qui sont strictement interdits, du moins sur le papier. Donc nous, on en reste donc à faire de la prospection. Ce qu'on appelle la prospection, c'est-à-dire à aller voir dans les champs, dans les...
tout ce qui est en surface.
Tout ce qui est en surface. Voilà, donc c'est la prospection de surface. Alors, soit aiguillé, qui est, alors le but est aiguillé soit par l'un d'entre nous qui est au cours de ses pérégrinations personnelles.
Vous devez surveiller les labours, non?
Voilà, on doit surveiller les labours, mais bon, le problème c'est que les labours, il y en a quasiment plus maintenant, hein. Vous parliez tout à l'heure que la société archéologique a 30 ans, elle en a même un peu plus. Il est certain que ceux qui étaient avant nous ont trouvé beaucoup de choses, mais eux, ils avaient la chance d'avoir aussi beaucoup de labours. Maintenant, il y a de moins en moins de labours. Il y a beaucoup plus de maintenant de pacage, de prés, de prairies pour l'élevage. Voilà. Donc, nous, on a vraiment un manque là important.
Alors, comment vous faites vivre votre côté alors, Indiana Jones? Il est où le lasso et puis
voilà,
l'aventure?
Alors, mais finalement, on a quand même constitué depuis un certain temps, quand même, on a quand même ramassé du matériel, quand même, hein. Mm-hmm. Voilà. Et puis, on a profité aussi de certaines occasions, comme à la Madeleine, il y a quelques années, quand il y a eu une extension. Donc là, on a quand même trouvé beaucoup de matériel. Donc, dans notre société, on a, au local, on a des armoires pleines de cailloux, pleine de tessons de poterie, de haches polies, etc., etc.
Vous parlez de la Madeleine, pas au hasard, c'est un site gallo-romain, hein, l'implantation du foirail de la Madeleine et de la salle de la Madeleine.
Oui,
un ancien.
Oui, mais là j'irai même beaucoup plus loin. Hein.
Ah oui.
J'irai même beaucoup plus loin parce que pour moi c'est un site extrêmement important.
Un lieu stratégique.
C'est un lieu stratégique, c'est un lieu de croisement d'autoroutes, enfin les voies romaines, hein, les autoroutes de l'époque, et c'est une cité qui a existé même avant l'époque gallo-romaine. Voilà, nous avons trouvé à la Madeleine pas mal de matériel, hein, il faut bien dire, et on a pu financer des diagnostics scientifiques de datation. Vous savez qu'en particulier la thermoluminescence permet de dater les poteries, mettons à 100, 150 ans près. Vous voyez, c'est pas une grande précision, mais quand même, en accumulant un peu les analyses, on arrive quand même à certaines conclusions. Nous avons pu, grâce à une bonne gestion de nos finances, payer un petit peu ces examens. Et donc, moi, je n'hésite pas à dire maintenant que la Madeleine, et j'en apporterai les preuves dans un prochain bulletin, le numéro 2 et le numéro 3, je n'hésite pas à dire que la Madeleine a été occupée au moins 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc, la Madeleine, il y a une occupation humaine, mettons, de moins 150 à plus 500. Donc, pendant quand même 600, 700 ans, il y a eu une énorme ville, voilà, qui est maintenant sous terre. Alors, quand on a construit le foirail ou des choses comme ça, ben, on a vu des choses, mais bon, ça mériterait certainement beaucoup plus que cela. Donc,
vous devez être la bête noire des promoteurs et puis des gens qui travaillent pour l'urbanisme et les bâtiments. C'est oulalalalala, ils vont nous ralentir le chantier, cela.
Oui, alors à la Madeleine, c'est interdit de construire. Ouais. C'est zone inondable.
Oui.
Voilà, c'est zone inondable.
Enfin, là, il y a un foirail quand même qui a bien été construit. Et
oui,
un
non,
moment,
mais c'était avant que ce soit déclaré inconstructible pour. C'était avant le foirail.
Cela dit, pour m'être un peu documenté, j'ai cru comprendre qu'en 1938, on avait trouvé une petite statuette qui trouve. tourne aujourd'hui un musée à Toulouse.
Mais voilà, absolument. C'est une des grandes, des pièces essentielles, pas essentielles, mais une des pièces importantes du musée Saint-Raymond. Ouais. Voilà, et donc nous n'avons qu'un moulage, voilà, de cette statuette qui doit dater certainement d'avant l'époque gallo-romaine, hein, il faut la mettre.
Et qui a été trouvée place de.
Voilà, hein, et qui a été trouvée là-bas. Mmh. Donc là-bas, on sait que même il y a eu un c'est là aussi, je sais pas si vous le savez, où on avait trouvé des urnes cinéraires là, qui sont plutôt à remettre vers le 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Mmh. Donc vous voyez, il y a une occupation majeure de ce lieu, voilà, qui mériterait effectivement des fouilles programmée, importante. Bon, moi j'ai souvent posé la question, mais voilà, ça reste un petit peu sous la pile des dossiers, et je ne sais pas pourquoi, ça reste un petit peu... Voilà, et dans la mesure où on ne peut plus construire sur le site de la Madeleine, je ne vois pas très bien où ça va évoluer.
On n'en saura pas plus hein, sur cette... ville gallo-romaine.
J'espère que si, qu'on en saura plus quand même. Ah bon, c'est une ville où il y a les mosaïques. Pourquoi pas autre chose. Il est certain que les dites mosaïques, s'il y avait une fouille importante qui était faite, et si on trouvait d'autres mosaïques, je pense que sur un plan touristique, entre guillemets, ce serait quand même des fouilles, des mosaïques de qualité, ce qui était le cas, d'après le peu qu'on sait. Mmh. Et ce serait quand même un atout pour... un atout touristique important.
De ce que j'entends dans votre discours, vous avez l'air d'être empêché quand même. C'est l'empêchement de encadré par la loi.
Eh bien, vous savez, d'abord il y a la loi et ensuite il y a un professionnalisme qui se fait. Et maintenant, dès que vous n'avez pas tel diplôme, tel truc, etc. On vous considère pas quoi. Les choses ont énormément changé depuis 50 ans. Il est certain qu'il y a 50 ans, quelqu'un comme les structures qu'il y avait à l'époque, hein, je ne vais pas citer de nom, mais qui étaient à l'époque, hein, eux demandaient la fouille, passaient un coup de fil au directeur antiquité, et ils avaient l'autorisation de fouille, vous voyez. Moyennant quoi, il fallait faire un rapport de fouille, etc. Et voilà. Maintenant, c'est devenu très encadré, très scientifique, très professionnel. Et voilà, moi je vois maintenant sur... il y a des sites où je voudrais qu'il y ait une fouille. Alors maintenant, on ne parle même plus... On me dit, ah ouais, mais vous comprenez... C'est même plus un archéologue médiéval maintenant, vous voyez. Maintenant, on va en dire, ah ouais, mais il faut un archéologue du haut Moyen-Âge, spécialisé dans la poterie, vous voyez. Alors, on diaphragme tellement qu'évidemment, cet oiseau rare peut-être n'existe pas même. Et s'il existe, il a tellement de boulot qu'il ne viendra pas ici. Alors, on est dans un travers qui fait que... que nous, société...
Moi, je vous recommandais de désobéir, mais c'est peut-être pas la meilleure des propositions. Mais bon, je dis, ça se fait. On le rappelle, Raymond Laurière, vous êtes le président de la Société archéologique de Villefranche-de-Rouergue, installée au 29 rue du Sénéchal à Villefranche-de-Rouergue. Vous éditez une lettre d'information, et dans l'actualité, c'est le bulletin de la Société archéologique de Villefranche-de-Rouergue. Oui, oui. C'est quoi ce projet? Il consiste en quoi? Ça fait un moment que vous souhaitiez voir vivre et il est là aujourd'hui.
Voilà, alors si vous voulez, jusqu'à présent, depuis quelques années, on édite le petit document que vous avez, qui est une lettre d'information pour informer nos sociétaires et puis certaines institutions, les élus, etc., sur ce qui se passe quand même au sein de la société. Voilà. Il est certain qu'il nous manquait une chose, c'est-à-dire un support de publication. Ce qu'on appelle un support de publication, c'est-à-dire un support sur lequel on peut publier le résultat de nos recherches, nos propositions, etc. etc.
C'est plus qu'un bulletin, c'est un livret de...
Voilà. Alors, dans l'Aveyron, il y a effectivement, à Villefranche, il y a le support de la publication des Amis de Villefranche, hein, les pages d'histoire du Villefranchois. À Rodez, il y a les études villefranchoises, les études aveyronnaises, qui sont des revues importantes, qui ont leur place, etc. Mais bon, il est certain que pour tous les membres de la société, à mon avis, ne pouvaient pas facilement ou aisément publier dans ces revues-là. Si bien qu'on s'est dit, mais nous, on a quand même beaucoup de choses à dire, et ouais, on n'arrive pas trop à le dire. Pourquoi on ferait pas comme les autres et donc créer cette revue. Donc
vous êtes vraiment des gratte-poils, hein. Est-ce que vous contestez peut-être des pans de l'histoire de par vos recherches et de par vos trouvailles peut-être aussi?
Oui, bien sûr.
C'est ça,
absolument.
Bah oui.
Disons que moi qui ai une formation d'historien d'art, hein, moi c'est vraiment le domaine qui m'intéresse. Moi, c'est-à-dire que l'histoire de l'art consiste pas contester peut-être pas le mot, mais peut-être reprendre certains éléments du passé et faire d'autres propositions à partir de constatations archéologiques, de faits nouveaux, d'éléments nouveaux, etc. Et de proposer des hypothèses. Bon, c'est ce qui se passe là-bas. Alors, dans le cadre de ce bulletin, là, de cette revue, de ce numéro 1, donc moi, ce que j'ai fait là, si vous voulez, les deux articles que je signe, il y en a un qui est fait, si vous voulez, sur le fait de colliger des relevés archéologiques qu'il y a dans la ville, les escaliers, les croisées, les supports d'encorbellement, etc. Voilà. Et il me semble qu'en les matérialisant sur un document, on peut proposer une chronologie de construction de la Bastide, ce qui ne s'est jamais fait. Et ça, on n'a pas besoin de fouilles pour le faire, donc...
Vous avez dit les supports d'encorbellement. Pardon, voilà. Vous pouvez nous expliquer.
Alors l'encorbellement, mais vous savez que les maisons médiévales, les maisons d'autrefois, n'avaient pas de façade plane. Elles avaient... au rez-de-chaussée, il y avait l'accès à la boutique, à l'atelier et l'accès à la demeure. Le premier étage où il y avait l'habitation était un peu plus grand, donc il fallait que le plancher était un peu plus grand que le plancher inférieur. Il fallait donc qu'il soit supporté par une espèce de corbeau, de potence, de crédence, etc., qui était extérieur à la mur, à la façade, et qui permettait d'agrandir. Et puis à l'étage au-dessus, pareil. Si bien que la maison et dernier étage presque pouvaient se toucher d'un côté à l'autre de la rue.
D'accord. Précision d'importance, pardon.
Il se trouve qu'encorbellement, le support d'encorbellement était en pierre et qu'il a survécu dans certains cas, il a survécu au fameux incendie de 1497 qui a détruit la ville, quoi.
Voilà. Donc, on est non pas dans une ville médiévale, mais plutôt Renaissance.
Voilà. Moi, ça, c'est mon avis. Mon avis, la ville a été complètement détruite en 1497. Et je pense, mais c'est ça, c'est une appréciation peut-être des faits. Je ne nie absolument pas ce qu'a dit Cabrol dans les annales de Cabrol, mais je pense qu'on n'a peut-être pas assez étudié ce qu'il a dit. Quand il dit que l'incendie a duré 8 jours et que les cloches ont fondu, il faut croire quand même que cet incendie devait être d'une importance bien plus grande que celle qu'on a bien voulu lui accorder, quoi. Et voilà, nous on a même trouvé du charbon de bois aux extrémités de la ville, aux profondeurs qui correspondaient aux profondeurs de l'époque. Donc pour moi, la ville a été quasiment détruite. Bon, il reste toujours des pans de mur, quoi.
Parce que vous faites des visites de cave, hein. Ça fait partie aussi des.
Bon, alors,
des
visites de cave, visites de cave, on en a fait un peu. Bon, ça fera l'objet d'un prochain article. On a fait des relevés de cave en partant du principe que quand on construit une maison, on construit toujours le sous-sol d'abord. Voilà. Malheureusement, la récolte est moins importante qu'en certaines villes. Je vois les études sur les caves qui ont été faites dans des villes comme Cahors ou tout ça. Ils ont trouvé des éléments archéologiques beaucoup plus importants que nous, ce qu'on a trouvé.
La Société archéologique de Villefranche-de-Rouergue, dans l'actualité, avec l'apparition de ce bulletin, de ce livret de la Société archéologique de Villefranche. Premier numéro, une production de la Société archéologique.
Voilà, nous avons de la matière pour au moins, à mon avis, au moins 4 ou 5 numéros, sans problème.
Enfin, si on... Oui,
pardon. Si on a les moyens. Si on a quand même les moyens de l'éditer.
En vente au prix de 10 euros, on le trouve à l'Office de tourisme de Villefranche également, à la librairie La Folle Avoine.
La Folle Avoine, à la librairie Le Sueur, et chez nous, bien sûr, à la société. Voilà, et je voudrais remercier aussi, en profiter pour remercier l'éditeur, qui a été particulièrement coopérant, puisque nous, on démarrait dans la réalisation de ces ouvrages qui nécessitent quand même une mise en page, une maîtrise informatique qu'on n'avait pas trop, mais vous voyez, ça s'est bien passé.
Vous voulez parler de Grapho 12 mise en page, c'est Chantal Desmarais. Vous en êtes le directeur de publication, Raymond Laurière. Le bulletin, alors moi, je trouve que ça aurait pu peut-être s'appeler Livret. 4 articles produits par les membres de la Société archéologique de Villefranche-de-Rouergue à disposition. En tout cas, ça éveille la curiosité, tout ce que vous venez de dire. Une autre vérité est possible, ou qu'une nouvelle lecture du patrimoine qui nous environne est possible. C'est la sensation que vous donnez, c'est que c'est cette proposition que vous nous faites au travers de vos agissements à la Société archéologique, et puis au travers peut-être de la lecture de certains des articles que l'on retrouve dans ce bulletin numéro 1. Vous pouvez nous le dire maintenant, ils sont où les trésors à Villefranche-de-Rouergue? On n'est plus à l'antenne.
Ah.
Non, je plaisante. Merci Raymond Laurière. Est-ce qu'on trouve encore des choses à Villefranche-de-Rouergue? Sensiblement oui, mais qui sont pas du domaine de la trouvaille comme on pourrait l'imaginer sous terre, mais il y a des éléments.
Hein. Si, il y a des choses à trouver. Disons que chaque année, on trouve au moins 2 ou 3 dolmens facilement, sans problème. Ça c'est extérieur à Villefranche, mais dans Villefranche, comme vous disiez, il y a encore des choses à faire et certainement des choses à trouver, soit dans les caves, soit dans les, mais surtout préciser au point de vue datation. Ce qui se développe là et ce dont on parle là, ce secteur, le problème du secteur sauvegardé là, je pense que pour la Bastide c'est une excellente chose, et pour nous archéologues, enfin du moins intéressés par l'histoire de notre Bastide, ça va être, je crois, important.
Merci Raymond Laurière, on le rappelle, président de la Société archéologique de Villefranche-de-Rouergue. On vous rencontre tous les mercredis de 14h à 16h au 29 rue du Sénéchal. C'est à proximité de la bibliothèque municipale, pas loin de la crèche parentale et municipale. Merci beaucoup.
Merci, au revoir, à bientôt.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30, la vie du Villefranchois.